Donc, je reviens juste sur la date du 22 mars, qui est effectivement la journée mondiale de l'eau. Et la thématique de cette année est eau souterraine, rendre visible l'invisible. Donc, là, on est en plein dans la thématique et on reviendra sur les enjeux liés aux eaux souterraines, peut-être plus tard dans le débat. Avant de vraiment lancer le débat, je souhaitais savoir s'il y avait des réactions ou des questionnements dans la salle, peut-être plutôt liés aux différents sujets qui sont abordés par le film.
Alors du coup, ma question, c'était, parce qu'on voit qu'ils ont fait leur forage finalement à la fin, et ma question, c'est comment c'était alimenté, parce qu'ils parlent d'un moteur, tout ça. Alors j'espère que ce n'est pas un diesel, mais je doute qu'ils aient des panneaux solaires. Donc est-ce que vous savez, je ne sais pas, par curiosité.
Alors, sur ce cas-là spécifique, moi j'ai découvert le film en même temps que vous, donc tout ce qu'on n'a pas vu, je ne suis pas en capacité je serais en capacité de le deviner. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour forer à 180 mètres de profondeur, il faut avoir une source d'énergie qui est assez puissante. Et je pense que précisément, ça doit être soit un forage qui est alimenté par une série de bouteilles de gaz qui sont organisées en réseau pour pouvoir coupler ça avec un moteur important. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que depuis les années 1960, on a eu une progression importante en fait dans la capacité des moteurs à extraire l'eau. Et on voit en fonction des zones, mais à l'échelle internationale, au départ, c'était essentiellement des petits moteurs, on va dire, de Renault 5 qui étaient bricolés. Puis on est passé à la Renault 12. À l'heure actuelle, la Rolls-Royce, dans beaucoup d'endroits à travers le monde, notamment les pays d'Afrique francophone, c'est la Renault 25, moteur diesel, qui est transformé de telle manière que ça puisse être alimenté par des bouteilles de gaz. Mais ensuite, ce sont des pompes qui sont submersibles et qui permettent de faire remonter l'eau, mais il faut une grande quantité d'énergie. Et il ne faut pas négliger la capacité en fait, du solaire, qui est en plein boom actuellement, en plein développement, comme étant une source d'énergie potentiellement d'ailleurs assez dangereuse, j'oserais dire, parce qu'à partir du moment où vous avez des panneaux solaires, vous avez accès à une source d'énergie qui est gratuite, qui certes fonctionne essentiellement pendant la journée, mais où vous avez de plus en plus d'agriculteurs qui se servent en fait de ces panneaux solaires pour remplir des réservoirs pendant la journée, pour ensuite irriguer en gravitaire ou que ça serve pour l'alimentation en eau potable, comme c'est ici le cas. Voilà, donc on ne peut pas vraiment donner une réponse précise par rapport à votre question, mais a priori, c'est soit du moteur diesel, soit du moteur diesel trafiqué.
Parce que du coup, ça pose la question quand même du coût du carburant, comment il s'approvisionne, pardon. Et donc voilà, c'est pour ça que je voulais savoir, je me pose la question, je suis curieux. Si quelqu'un d'autre a une autre question.
Je pense que ça rejoint tout un tas d'enjeux autour des eaux souterraines et on y reviendra plus tard dans le débat. Il y a d'autres réactions ou questions, mais vous aurez d'autres opportunités tout au long de la soirée de réagir. Donc, je commence par une question très simple. Il y a dans le film une omniprésence de la question, une omniprésence non, mais à différents moments, ça revient la question du réchauffement climatique. On apprend qu'il y a des animaux qui sont partis. On apprend que la saison des pluies est très rétrécie. Alors, comment vous pourrez vraiment faire le lien entre cette région qui est si peu alimentée, qui a une infrastructure faible pour avoir des ressources en eau, et le réchauffement climatique? Est-ce qu'il en est une cause? Est-ce qu'il en est un élément qui exacerbe les conséquences? Comment vous identifiez le lien entre ces deux éléments?
Moi, je crois que dans le film, ils disent bien que le réchauffement climatique, on le voit parce qu'ils disent bien qu'il y a une avancée de la sécheresse sur le territoire. Face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, évidemment, s'intéresser aux causes du réchauffement climatique, mais bon, ça y est, c'est parti maintenant. Hein. Et moi, ça me fait penser, on est aujourd'hui, c'était la journée mondiale de l'eau. Et j'ai vu que certains organismes internationaux, tels que la FAO, enfin bon, différents organismes de l'ONU, plaident pour constituer une gestion mondiale de l'eau. Bon, j'ai vu ça, c'est pas simple, mais enfin bon, ils le disent, ce serait l'idéal, hein, parce qu'on voit bien que l'eau douce à la surface de la Terre, elle est très inégalement répartie. Hein, et l'idéal, ce serait évidemment qu'il y ait une gestion globale pour éviter les conflits, pour éviter les zones où, disons, qui deviennent invivables. Hein, et donc, réchauffement climatique, ça veut dire aussi, mais ils le disent dans le film également, hein, ça veut dire déplacement des populations. Bon, avec les problèmes que ça peut poser, quelquefois, ben, de passer les frontières, etc. Ben, oui, voilà où on en est. Moi, c'est tout ce que je vois.
Bon, pour réagir par rapport à ça, alors c'est une zone sur laquelle moi je ne travaille pas particulièrement, mais c'est quand on regarde les travaux du GIEC à la fois sur la situation actuelle et sur les projections futures, alors qu'on soit sur des scénarios à plus 1,5, plus 2, voire même plus 4 degrés, l'Afrique subsaharienne et en particulier cette zone du Sahel fait partie des zones pour lesquelles, a priori, les impacts en termes d'élévation des températures, mais aussi une modification de la circulation finalement des masses d'air et donc du climat, va être parmi les plus impactés et déjà fortement impactés. Donc un des enjeux qu'on comprend bien dans le film, c'est pouvoir accéder à l'eau potable, qui est quand même un des besoins fondamentaux. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a encore à peu près 1 milliard de personnes à la surface de la Terre, hein, qui n'a pas accès à l'eau potable. Sachant que ces chiffres, d'ailleurs, des Nations Unies, avoir accès à l'eau potable, ça ne veut pas dire avoir accès à son domicile, c'est simplement être situé à moins de 100 mètres d'un point d'alimentation en eau. Donc on voit que si on devait ajouter à cela la part de la population qui n'a pas accès à l'eau potable à son domicile, on aurait des chiffres qui seraient encore plus conséquents. Voilà ce que je peux dire pour être bref.
Ce que j'ai trouvé un peu rassurant, entre guillemets, dans le film, on avait un petit peu peur, c'est que apparemment, là, il s'agit d'une nappe souterraine renouvelable, hein, alors qu'il y a pas mal de secteurs, enfin tu le diras, il y a pas mal d'endroits où on tire actuellement l'eau de nappes fossiles, hein, qui ne se renouvellera jamais, ce qui fait qu'une fois que le réservoir est vidé, il n'y a plus rien, quoi. Mais là, apparemment, il s'agit d'une nappe renouvelable, bon, hein, puisqu'on a vu qu'il y avait quand même une saison des pluies assez importante. Bon, c'est une parenthèse.
En effet, il y a des chiffres, 11% de la population mondiale qui n'a toujours pas accès à l'eau, alors qu'en 2010, l'ONU a pris la résolution et qui a fait de l'eau potable un droit humain inaliénable. Mais il y a quand même des projections qui sont un peu pessimistes, qui diraient que d'ici 2025, 4 milliards de personnes, ce qui veut dire plus de la moitié de la population mondiale, pourraient être soumises à un stress hydrique. Peut-être que vous pourrez élaborer sur cette notion de stress hydrique.
Alors, peut-être brièvement, la notion de stress hydrique, c'est une notion qui a été développée dans les années 1970 par une hydrologue suédoise qui s'appelle Malin Falkenmark. Et d'ailleurs, souvent, on utilise l'expression indice ou index de Falkenmark. Et au départ, elle avait défini en fait le stress hydrique comme étant la disponibilité par habitant et par an avec un seuil qui était évalué, je crois, à l'époque, au départ de ses travaux, à 1700 m3 par habitant et par an d'eau disponible. À l'heure actuelle, hein, l'OMS, la FAO sont plutôt sur 1000 m3 par habitant et par an, sachant que quand on se situe à 500 m3, on est dans une situation au-delà du stress hydrique, hein, de rareté structurelle. Et puis, il y a un certain nombre de pays. Hein, on peut penser, par exemple, à des zones, par exemple, en Palestine. Alors, les chiffres sont toujours à prendre avec des pincettes, hein, parce qu'en fonction de qui est fournisseur de ces chiffres. Mais pour certaines années, on était autour de 70 m3 par habitant et par an, hein, dans certaines de ces zones. Donc, effectivement, on voit qu'une des conséquences du changement climatique, c'est que la proportion des pays, et raisonner d'ailleurs à l'échelle nationale n'a pas toujours grand sens, hein, parce qu'il y a des grandes, grandes disparités à l'intérieur même des pays, raisonner. Voilà, que la proportion, malgré tout, de ces pays qui vont se retrouver à terme, à l'horizon 2030-2050, en situation de stress hydrique, va s'accroître.
Oui, on pourrait simplement rappeler d'où vient l'eau douce, hein, puisque on a besoin, c'est de l'eau douce dont on a besoin, hein, alors que malheureusement, elle ne concerne que 2 ou 3% de l'eau sur la croûte terrestre. Donc l'eau douce vient de l'évaporation des mers, bien sûr, et vient aussi de l'évapotranspiration des plantes et essentiellement des forêts. Hein, donc, d'avoir un œil sur ce qui se passe au niveau des forêts, puisque c'est aussi l'un des réservoirs d'eau douce, hein, par le grand cycle de l'eau. Moi, ça me fait penser à ça. Oui.
C'est intéressant parce que tu évoquais, Olivier, la question de voir à l'échelle mondiale ou nationale. En fait, on pourrait presque se poser la question de à qui appartient l'eau qui est sur Terre, parce que ben, la quantité de l'eau qui reste sur la planète est constante. Mais il y a quand même une question de répartition des ressources. Comment on peut en fait parler de à qui appartient l'eau, qui gère l'eau, comment on y accède, et justement quels sont les enjeux liés à cet accès à l'eau.
Je ne sais pas. Moi, je reviens à cet appel que j'ai vu là, qui date d'hier ou d'aujourd'hui, hein, qui tourne autour de cette journée mondiale de l'eau et qui plaide pour une gestion mondiale de l'eau. Bon. Encore y arriver, quoi. Mais...
Alors, en réaction, peut-être simplement, c'est une très vaste question, à qui appartient l'eau. On pourrait y passer la soirée, parce qu'en fonction des cadres juridiques, quasiment dans tous les pays, et même à l'intérieur de certains des pays, les situations sont très, très variées. D'abord, je pense qu'il y a une première chose qu'il faut dire, c'est que généralement, la propriété de l'eau, c'est une propriété qui appartient à l'État, dans quasiment tous les pays à travers la planète. En revanche, ce qui va être à prendre en considération, c'est plutôt les droits d'usage. C'est-à-dire que quand on dit, c'est des slogans qui sont utilisés, j'imagine aussi par Au Secours 62, non à la marchandisation de l'eau, à la privatisation de l'eau. En fait, ce n'est pas l'eau en tant que telle qui est forcément privatisée ou qui est marchandisée, c'est le service d'eau. C'est le droit d'usage de l'eau. Et de façon un peu schématique, souvent dans les pays de droit romain, on fait la distinction entre les droits d'usage, les droits d'usufruit et les droits d'aliénation. Donc c'est ce que les Romains appelaient l'usus, l'usus fructus, l'abusus. Et en fait, pour pouvoir avoir la propriété pleine et entière, il faut avoir les trois faisceaux de droit. Et on voit très bien que sur la question de l'eau, eh bien souvent, la question qui va se poser, c'est de savoir comment on la répartit et à qui on va attribuer la capacité de l'utiliser pour l'alimentation en eau potable, pour l'agriculture, pour l'industrie, pour tout un tas d'autres usages récréatifs. Mais en aucun cas, on ne sera en capacité finalement d'aliéner la ressource parce que l'eau, en fait, comme disait Schruti, la quantité qui est présente sur Terre aujourd'hui, elle était la même hier, elle sera la même demain. Et donc, on ne peut pas vraiment la détruire. On peut la polluer, hein, en revanche. Donc, il y a ce premier aspect-là qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que quand on parle de propriété de l'eau, en fait, il faut plutôt penser en termes de faisceau de droits de propriété, et notamment sur la question des droits d'usage. Et puis après, il y a une deuxième couche qu'on peut rajouter par rapport à ça, c'est que ça va être très dépendant des doctrines juridiques qui s'appliquent en fonction des pays. Alors pour être un peu schématique, on peut dire qu'il y a tout un tas de pays qui sont issus du droit romain, comme c'est le cas par exemple en France, où en plus on va pouvoir surajouter par-dessus une couche qui est la couche du code civil. Et puis il y a tout un tas de pays pour lesquels c'est la jurisprudence qui fait foi, et c'est le cas notamment de tous les pays plutôt anglo-saxons, les États-Unis, l'Angleterre, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud... tout un tas de pays en fait, qui ont hérité leur droit de l'eau de la doctrine de la common law et qui vont avoir vraiment des caractéristiques très spécifiques. Avec, pour vous donner un seul exemple, hein, il y a cette idée dans le droit anglo-saxon du first in time, first in right, premier arrivé, premier servi, qui fait qu'en fonction de qui a été la première personne à mettre en valeur, à exploiter, à dériver un cours d'eau, à l'utiliser, cette personne-là ou ses descendants auront des droits qui vont être considérés comme prioritaires. C'est ce qu'on appelle la doctrine de la prior appropriation et qui est encore un élément qui est très vivant dans l'Ouest des États-Unis. Donc on voit qu'en fonction du système juridique qui s'applique dans les différents pays, et il y a maints exemples où on a d'ailleurs des hybridations entre les systèmes anglo-saxons et les systèmes hérités du droit romain, en particulier en Amérique latine, on va avoir des cas de figure qui sont complètement différents. Et en fonction du type d'usage, si on parle d'un usage agricole, si on parle de l'usage industriel, de l'alimentation en eau potable, où là en l'occurrence on parle plus tellement de l'eau mais des services d'eau et d'assainissement, on se retrouve dans des configurations différentes. Donc ma réponse était beaucoup plus compliquée que la question, j'ai l'impression. Mais c'était pour vous dire que tout ça, c'est complexe.
La gestion du grand cycle de l'eau, qui se fait localement par bassin versant. Un bassin versant, c'est donc une rivière avec tous ses affluents, et on trace un trait de crayon tout le tour, et on a un bassin versant. Dans notre secteur, ici pour l'Arajoie, le bassin versant s'appelle est géré par le SAGE, schéma d'aménagement et de gestion des eaux, qui porte le nom de SCARP amont, donc qui va de la source de la SCARP jusqu'à peu près Douai, et avec tous ses affluents, le Gy, le Crinchon, le Cogel. Et voilà le bassin versant. Et donc, effectivement, l'un des thèmes de travail de ce SAGE, SCARP amont, ce sera de définir les différents usages de l'eau répartis, puisque on a un certain volume à partager entre différents utilisateurs, ces trois utilisateurs étant, donc comme tu le disais, d'abord les usagers et l'eau potable, ensuite l'agriculture et ensuite les industriels.
Et donc, comment l'utilisation de l'eau est répartie entre ces trois utilisateurs? Est-ce qu'on peut comparer, en fait, l'utilisation domestique de l'eau avec ce qui est utilisé dans les industries? Est-ce qu'il y a une... Évidemment que c'est pas comparable en chiffres, mais en termes d'abus de l'eau ou en termes même de pollution de l'eau, est-ce qu'il y a des parallèles à...
Bon, je pense pas qu'il y aurait de restrictions au niveau de l'eau d'alimentation. Par chance, un petit peu dans le secteur, d'après ce que j'ai pu voir, il y a aussi un petit peu moins d'industrie, utilisant de l'eau. Donc ça laisse un petit peu de latitude. Alors maintenant, il y a l'histoire des captages par l'agriculture, qui n'est pas encore actuellement, j'allais dire, raisonnée. Et là, donc, on en vient au problème de l'agriculture. Je suis peut-être que ça fera partie de tes questions. Donc, parce qu'on est aussi dans une région de monoculture industrielle qui demande, au moins pour certaines cultures, les pommes de terre par exemple, qui demandent pas mal d'eau. Et donc, j'ai bien l'impression que s'il doit y avoir restriction, ce sera une restriction au niveau de l'irrigation, me semble-t-il.
Moi, si je peux compléter, alors en prenant un spectre beaucoup plus international, parce que j'ai pas les chiffres non plus au niveau local, donc ça m'arrange de le présenter de cette manière-là aussi. On considère souvent qu'à l'échelle mondiale, il y a à peu près 70% des prélèvements en eau qui sont pour l'activité agricole. Alors l'activité agricole, l'élevage, tout ça confondu. Donc on a à peu près, on va dire... les 30% qui sont répartis moitié-moitié entre l'industrie et l'alimentation en eau potable. Par contre, la question des prélèvements en eau, c'est une donnée qui est intéressante à analyser. Ce qui est beaucoup plus intéressant à analyser, c'est la consommation d'eau. Et là, on se rend compte que si on raisonne en termes de consommation, c'est-à-dire la proportion de l'eau qui va être prélevée et qui ne revient pas dans les écosystèmes à une échelle locale, en fait, l'agriculture représente 90% de la consommation mondiale d'eau, tout simplement parce que quand on irrigue, c'est parce que les cultures en ont besoin, et donc pour l'essentiel, ça va repartir dans l'atmosphère, et puis après, ça va se retrouver précipité, mais beaucoup plus loin. Et donc, une des raisons pour lesquelles, effectivement, on peut essayer de porter vraiment l'attention sur la question du secteur agricole. C'est parce que si on réussit ne serait-ce que de limiter de 15 ou 20%, et la dynamique elle est plutôt complètement inverse à l'heure actuelle, hein, puisqu'on est toujours dans un boom et un développement très intensif de l'exploitation des eaux souterraines, en particulier pour l'agriculture, mais aussi des eaux de surface. Si on réussissait à limiter, en fait, ne serait-ce que de 15 ou 20% le secteur agricole dans sa capacité à irriguer, en fait, on pourrait gagner de façon assez importante pour l'ensemble des autres usages. Après, il y a un autre aspect qui est peut-être intéressant à mentionner, c'est que parmi les usages, notamment donc sur l'alimentation en eau potable, on a des réseaux qui sont assez vétustes, voire même très vétustes. Et en France, on n'est absolument pas à l'abri de ce type de situation, avec parfois des réseaux qui perdent 40 à 50% de l'eau qui circule, ne serait-ce parce qu'il y a des fuites, ça fuite partout. Et donc, il y a aussi cet aspect-là, avec des infrastructures qui sont très coûteuses à réparer, à entretenir. Et donc, si on fait un investissement important dans l'entretien, dans la réparation de ces infrastructures, voire dans la construction de nouveaux réseaux, on peut aussi économiser de l'eau de façon assez conséquente.
Est-ce qu'on peut ouvrir à des questions ou des réactions dans la salle ?
Du coup, vous avez parlé des précipitations. En fait, question toute bête, pourquoi dans le film, ils ne récupèrent pas l'eau de pluie ? Parce qu'on voit bien qu'à un moment, il y a une saison des pluies. Apparemment, ça a l'air de pas mal tomber. Donc, alors, je comprends qu'il y ait des problèmes logistiques, mais finalement, qui seraient peut-être plus simples à résoudre qu'un forage. Donc, pourquoi ils ne le font pas ? Et... Ouais, le stocker, mais il faut construire un endroit pour le stocker, ça j'entends, mais c'est peut-être plus simple que de faire un forage. Je sais pas, c'est une question.
Je vais juste passer la parole à la dame derrière.
On entend beaucoup parler de l'empreinte carbone. Est-ce qu'il existe une empreinte eau ?
Justement à ce propos, puisqu'on parle de l'eau en tant que, enfin, alimentation, et dans le transport des légumes, de l'alimentation en fait, il faut aussi penser que s'il y a des produits qui poussent dans un certain pays et qui sont ramenés dans un autre pays, le fait d'avoir amené ces produits, que ce soit de la viande ou des avocats, enfin n'importe quel autre produit, lorsqu'il revient par exemple en Europe, forcément il a poussé, il a utilisé de l'eau ailleurs et on le ramène chez nous, enfin chez nous, dans nos pays, et puis vice-versa. Donc est-ce que ces flux d'eau entre pays au niveau de l'alimentation, est-ce que ça peut être mesuré ?
Il y a deux sujets là. Il y a la question de justement la consommation de l'eau dans la production des produits de consommation, notamment des produits agricoles. Et puis il y a aussi cette question qui est posée par Mohamed est-ce que quand il s'agit de la précipitation, est-ce que récupérer simplement l'eau de pluie peut être une solution afin d'approvisionner ce village dont on parle dans le film de l'eau potable ?
On parle d'une manière générale ou dans notre secteur je ne sais plus, j'ai pas entendu. Mais... Ouais.
En fait, la question est plus large pour essayer de comprendre pourquoi, par exemple, dans le film, ils n'ont pas simplement fait le choix de récupérer l'eau de la pluie au lieu de vouloir construire ce forage.
Moi, ça m'a fait. J'ai pensé à ça parce que j'ai vu des documentaires d'ONG qui travaillaient au Burkina Faso, par exemple, et qui arrivaient par système de noues, donc des trous ou des aménagements, disons, à maintenir disons, un maximum d'humidité au niveau du sol, hein, au niveau des terres, hein, si c'était ça. Donc moi, ça m'a fait penser à ça. Et si l'humidité au niveau du sol, moi, ça me fait penser aussi là au niveau de notre secteur. Et quand j'ai vu le dernier rapport du GIEC qui date de février, là, celui qui vient d'arriver, hein, il préconise là d'une manière très claire l'agroécologie, en disant bien que c'est la seule manière, disons, de limiter l'usage de l'eau en agriculture, parce que plus le sol garde de l'humidité, moins évidemment il y aura besoin d'irrigation avec tout ce que ça concerne, hein, le ruissellement, etc. Donc agroécologie, planter des arbres, enfin je crois que beaucoup dans la salle connaissent ça, hein, planter des arbres, éviter les monocultures. Hein. Nous, on est servi ici, encore une fois, dans le secteur. Donc là, les choses sont très claires et ça vient du rapport du GIEC et là des solutions, hein, des solutions apportées par ce rapport.
Sur la première question, alors, je me suis aussi fait la même remarque, hein, effectivement, est-ce qu'ils peuvent récupérer l'eau de pluie ? Après, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que tout dépend aussi des usages. Avoir, comme vous l'avez sans doute peut-être dans votre jardin, une citerne qui récupère l'eau de pluie, ça va pour arroser des plants de tomates ou arroser votre jardin sans souci. En revanche, si là l'objectif c'est dans la perspective de l'alimentation en eau de la population, en fait il y a un développement bactérien, tout dépend en fait quel est le contenant, c'est-à-dire où est-ce qu'on peut stocker cette eau et est-ce qu'un traitement est nécessaire pour la rendre potable. On a vu, hein, y a un petit garçon qu'on voit à plusieurs reprises, qui est assez amusant d'ailleurs tout au long du film, qui à un moment se sent pas bien. Il y a une proportion très importante d'enfants chaque jour qui meurent d'avoir ingéré une eau saumâtre. Et donc récupérer l'eau de pluie, si c'est pour la stocker dans un endroit où on peut avoir un développement bactériologique, c'est un des facteurs sur lesquels il faut être quand même très, très prudent. Après, par rapport à la question sur l'empreinte liée à l'eau, oui, il y a des travaux en fait, hein, qui portent... et d'ailleurs, il faut espérer que, comme l'empreinte carbone, ça finisse par devenir des éléments de marquage des produits en tant que consommateur, qu'on ait vraiment conscience de la quantité d'eau qui est mobilisée. Alors, je ne sais pas si les chiffres sont tout à fait exacts, mais on évoquait tout à l'heure autour de la viande. Produire un kilo de bœuf, je crois que c'est quelque chose comme 1000 litres d'eau. Et donc, il y a ce type de ratio. Et il y a un certain nombre d'ONG qui ont développé des calculateurs, hein, qui permettent d'avoir l'empreinte liée à l'eau. Et au-delà de ça, sur la question du commerce international, en fait, c'est tout à fait en lien, parce qu'il y a aussi des travaux qui sont réalisés aujourd'hui et qui essaient de mesurer, dans la part des importations et des exportations à l'échelle internationale, la quantité d'eau qui est incorporée dans les produits. Alors, ça peut être pour des produits d'alimentation de... les fruits, les légumes, la viande qu'on vient d'évoquer, les céréales également. Ça peut être aussi pour la production d'un t-shirt, d'un jean, et d'essayer de comprendre finalement la part de ces flux d'échanges internationaux et la quantité d'eau qui est incorporée en fait à ces différents échanges. Il y a des travaux qui insistent beaucoup sur ces aspects-là. Et d'ailleurs, on voit à travers les grandes tendances, hein, que les principaux pays qui sont concernés dans le commerce de cette eau dite virtuelle, ben on retrouve la Chine, les États-Unis, le Canada, l'Inde, pour n'en citer que quelques-uns. Mais effectivement, il y a fort à se préoccuper aussi, et c'est important qu'on puisse être documenté sur ces flux internationaux, ne serait-ce que pour comprendre, comme vous le disiez tout à l'heure, que quand on achète un kilo de tomates fabriquées à Almeria ou au Maroc, ben en même temps, on est en train d'utiliser indirectement de l'eau qui n'est plus disponible là-bas.
C'est des petits témoins en fait, par rapport à la question. Pourquoi pas de récupérer en fait l'eau de pluie directe en fait. La réponse en fait, elle est très compliquée. C'est pas trop simple. Déjà en fait, c'est par rapport à les climats dans cet endroit. C'est très difficile en fait de conserver l'eau. Ça se fait en fait ce modèle en fait de récupérer de l'eau directe, par exemple en fait dans le Soudan, on peut récupérer et ça fait même pas de bactéries. En fait, tout le monde il peut utiliser la même eau pendant un an complet. Mais les questions en fait pour les peuples Peul et les peuples en fait Zagawa en fait dans cet endroit, c'est très compliqué en fait parce que les questions en fait de l'échauffement climatique. Il a mis en cause en fait le mode de vie. Il devient très symbolique en fait aujourd'hui en fait de faire de voyage en fait que les gens en fait puissent en fait installer dans le même endroit, de rester. C'est de histoire en fait de survivre en fait et de mode de vie. Et les Peuls en fait c'est les troisième grande population en fait dans l'Afrique et leur mode de vie en fait devient très 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 compliqué. Moi j'étais content, super content en fait qu'il ait été choisi en fait comme de symbolique en fait, Parce que le mode économique, comme on parle de l'échauffement climatique, ça a commencé en fait des années 70 et quelque chose comme ça. En Afrique, de couper les arbres, déjà le mobilier en fait de l'occidentaux. Après, de grands projets de coton, en fait, on parle en fait de l'Nil, tout ça, en fait, le projet de coton, l'élevage aussi, le mode de l'élevage, en fait, c'est des choses dont on parle beaucoup, en fait. Tout le monde oriental, en fait, les pays de, bon, c'est l'Arabie, en fait, ils sont nourris de ces bêtes, en fait. Et du coup, ça devient vraie question, en fait. Et maintenant, c'est des zones, en fait, de conflits, de guerres. Les sécheresses, en fait, ça provoquait, en fait, vraiment d'énormes malaises des années 80, de famine, et après des années 90. Et aujourd'hui, en fait, les conséquences, c'est Darfour, Niger, on parle de Touareg. En fait, les questions, c'est très compliqué. Pour ça, faire de forage, c'est pas très simple, mais faire de forage, quand même, permanent, c'est les solutions. Et c'est très facile, mais les volontés en fait de dirigeants là-bas, c'est très compliqué. Et c'est bien, les jeunes le font d'ici. Moi, je crois quand même. Merci.
Au début, vous avez dit que la ressource, elle était constante. Ça me surprend, parce que moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, au niveau mondial, la ressource, elle est en diminution. Par le fait qu'on a un cycle de l'eau qui s'est accéléré, et comme le cycle s'est accéléré, l'eau arrive beaucoup plus vite à la mer. Et moi, j'en conclus, mais c'est une conclusion personnelle, que de ce fait-là, notre ressource diminue. Ah oui, elle diminue parce qu'au niveau des terres agricoles, il y a de plus en plus de ruissellement. Il y a aussi de plus en plus de sols qui sont bétonnés et ne permettent plus l'infiltration de l'eau. Et toute cette eau-là arrive à la mer beaucoup plus vite qu'auparavant. Et en fin de compte, il faut revenir... à remettre en place un cycle de l'eau beaucoup plus lent. Et je pense qu'au niveau agricole, il y a pas mal de choses à faire. Je suis agriculteur, irrigant, mais avec un petit forage. Et ça m'a permis de me poser un certain nombre de questions, parce que je suis limité dans le débit de mon forage. Et donc je me suis orienté vers l'agroécologie. Et par rapport à ça, je m'aperçois qu'en fin de compte, en fonction de l'utilisation de l'irrigation, si vous êtes sur un sol qui n'est pas vivant, où en fin de compte l'eau a du mal à pénétrer, en fin de compte votre irrigation va avoir très peu d'efficacité et vous allez utiliser beaucoup plus d'eau pour une même culture. Par contre, si vous avez un sol plus vivant, il a plus de capacité à absorber l'eau que l'agriculteur apporte lors de son irrigation, et il aura besoin d'une quantité d'eau nettement moins importante.
Alors cette question de constant diminuant...
Oui, si je peux réagir, effectivement, ça paraît un peu surprenant quand on dit... Enfin, tout le monde connaît l'adage, hein, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et ça s'applique aussi à l'eau. Donc après... quand on parle de l'eau, effectivement, il y a la question de la proportion entre l'eau salée et l'eau douce. Et à l'intérieur de l'eau douce, il y a une eau douce qui soit de bonne qualité et une eau douce qui est de qualité moindre. Donc, de manière générale, on peut dire que quand même, la quantité d'eau douce de bonne qualité vient à diminuer. Mais c'est surtout la question de la répartition spatiale de la ressource à l'échelle mondiale qui vient bouleverser et donner parfois l'impression que dans certaines zones, on a moins d'eau qu'auparavant. C'est ce qu'on voit aussi ici dans le cas du Niger. Et puis, il y a la question de la répartition, donc non seulement spatiale, mais aussi temporelle, puisqu'on a des très, très fortes précipitations. On l'a vécu encore l'été dernier, hein, si on se rappelle des épisodes en Allemagne, en Autriche, en Belgique et dans l'est de la France, avec des quantités d'eau précipitées en l'espace de quelques heures qui sont très importantes, qui effectivement vont générer des glissements de terrain et puis emporter de façon beaucoup plus rapide l'eau vers les mers et vers les océans. Mais physiquement, on a toujours la même quantité d'eau.
La question peut-être que moi je me pose, c'est qu'est-ce que nous on peut faire ? Parce que couper le robinet quand on se brosse les dents, finalement on se dit que ça a peut-être peu d'impact. Est-ce que d'ailleurs il y a des chiffres sur... quel est l'impact, pas forcément sur le brossage de dents, Mais comment on peut réduire son impact en eau dans la vie?
Je pense que c'est une très bonne question qu'on peut poser à l'ensemble de la salle, parce que bon, effectivement, on est confronté à ce problème-là.
Il y a 1, 2, 3 réactions dans la salle.
Oui, en fait, pour répondre un peu à votre question, en fait, quand on regarde en France la répartition des consommations d'eau, en fait, il y en a une grande partie, comme ça a été dit, pour l'agriculture, une partie pour l'industrie, une partie pour la production d'énergie, et une partie pour la consommation domestique. Cette partie consommation domestique, finalement, elle est assez faible par rapport à l'ensemble. Et en fait, quand on regarde, ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour réduire notre consommation d'eau, finalement, manger moins de viande, ben, c'est extrêmement efficace. Si votre maison est chauffée à l'électricité, par exemple, pour réduire votre consommation d'eau, en fait, isoler sa maison, c'est extrêmement efficace. Peut-être plus que de couper le robinet quand on se brosse les dents, par exemple. En fait, il faut voir vraiment la consommation d'eau globale et regarder en fait qu'est-ce que chacun, enfin, quel impact chacun a, à la fois sur sa consommation domestique, mais aussi sur sa consommation agricole, sur sa consommation aussi en produits importés, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'on achète un nouveau jean, ben, on va consommer de l'eau, à chaque fois qu'on achète un produit électroménager, etc. Voilà, donc il faut vraiment essayer de faire une approche vraiment globale. On peut prendre aussi l'exemple du lave-vaisselle. Il y a quelques années, il y a eu de fortes communications en fait, sur le fait que le lave-vaisselle, c'est bien parce que ça ne consomme pas trop d'eau pour faire la vaisselle. En fait, pour fabriquer un lave-vaisselle, il faut à peu près l'équivalent de 1000 cycles de lavage du lave-vaisselle. Donc rien que le fait d'acheter le lave-vaisselle, en fait, on a déjà consommé comme si on avait fait 1000 vaisselles à la main. Et ça parle que de la ressource en eau. Ça parle pas de l'énergie, ça parle pas de tous les autres. Donc en fait, réduire sa consommation d'eau, ça passe vraiment par une réflexion globale sur la consommation en général, et puis même jusqu'à baisser d'un degré la température dans le logement, bah vous allez réduire votre consommation en eau.
Oui, donc en fait, moi j'avais une question totalement en dehors de tout ça, mais purement artistique, parce qu'on est rassemblés ici autour d'un film et non pas d'un documentaire. Enfin, du coup, il y a aussi d'autres enjeux qui sont proposés. Et d'ailleurs, le film le montre, on n'est pas dans un but de montrer les problématiques ou les difficultés, enfin, en tout cas ce que j'ai conçu, liées à l'administration ou même aux politiques, même si elles sont bien sûr sous-jacentes. Mais au contraire, le regard était différent, ou du coup, il était même à hauteur en fait, humain, à hauteur d'un regard, en fait, tout simplement, même s'il y a quelques plans en plongée. Et en fait, il était rassemblé, je trouve, autour du sensible, d'une eau qui sépare, dans l'éclatement aussi, à la fois géographique et familial. On est quand même aussi dans un drame, ces drames de l'eau, ces drames qui séparent, donc avec aussi qui impactent du relationnel, et une eau aussi qui rassemble. On l'a surtout vu à la fin avec cette cérémonie quasiment autour de cette douche, de cette fontaine d'eau. Et du coup, c'était plus pour une question pour vous trois, en fait. Comment, dans la qualité, entre parler avec et parler d'eux, enfin, ces problématiques de lésienne, quel a été votre ressenti en voyant ce film, avec vos problématiques et votre statut actuellement différent? Donc, en tant que mec de conférence, en tant que RP, et en tant que voilà, quelqu'un qui gère une association autour de l'eau, quel a été votre rapport à ce film, en fait, du sensible?
Si je peux répondre à la question... Personnellement, je pense que j'ai beaucoup apprécié le regard à la hauteur d'un enfant, enfin de l'enfant. Je pense qu'on sent vraiment une problématique qui est aussi très liée au manque de ressources en eau, qui est de la disproportion de cette manque qui est vécue par les femmes et les enfants, surtout par les enfants. Et je crois que la réalisatrice avait cette intention. De ne pas faire un documentaire avec une voix off qui sont balancées au public, mais vraiment faire un portrait de ce village, un portrait qui dure exactement un an d'ailleurs, si vous suivez. Et c'est pas anodin, c'est aussi pour parler des saisons, c'est aussi pour parler du dérèglement du coup de ce fait en abordant l'angle des saisons. Et en tout cas, à titre personnel, je crois que j'ai beaucoup apprécié ce regard assez naïf, finalement, sur le manque de l'eau. Il y a par exemple ce passage où on voit cet enfant qui se rend compte qu'il y a de l'eau sous la terre, et il est complètement perturbé par par cette information, parce qu'ils passent tous les jours plusieurs heures à aller chercher de l'eau, ce qui ne lui permet pas d'être, plus assidu à l'école. Il y a presque une sorte de... La vie de ce village est complètement créée, construite autour du manque de ressources. Et je pense que c'est vraiment ça que le film a souhaité capter.
Moi, à titre personnel, j'ai été assez sensible à la photographie. Je trouve qu'il y a une très belle photographie. Après, je suis assez d'accord quand Shruti disait une certaine naïveté, parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal de stéréotypes en fait, qui sont véhiculés aussi à travers le film. La trame, elle est quand même très simple. Hein. Enfin, si on doit résumer c'est quoi l'histoire du film, ça peut tenir en deux ou trois phrases. Et je pense que c'était un bel exercice que d'essayer de rendre effectivement par la corde sensible, par cette sensibilité, tous les enjeux. Moi, j'ai souvent tendance à dire que la question de l'eau, c'est un espèce d'ouvroir de tout un tas d'autres enjeux, d'autres problématiques, et on l'a bien vu dans le film à travers la question de la place des femmes, indépendamment de ça aussi la question du pouvoir, non seulement le pouvoir public mais aussi le pouvoir dans la tribu, qui détient les règles, la place des enfants, le lien filial qu'il peut y avoir entre les parents et les enfants, la question des migrations, et on voit que rien qu'à travers ça, même si, encore une fois, la trame, elle est très simple, je trouve que, pour filer la métaphore, le film tisse bien tous ces éléments.
J'ai apprécié également les images. Là, j'ai beaucoup aimé les images. Et puis, une certaine naïveté, oui, ou une certaine sobriété dans le film. Mais ben, justement, parce qu'on a affaire à, disons, à une population qui vit très, très sobrement. Hein, bon, voilà.
Mais je crois qu'il y a aussi beaucoup de moments vraiment drôles, surtout par rapport à l'enfant. Et par exemple, cet enfant qui verse un peu d'eau pour se laver, mais qui se fait gronder parce qu'il serait en train de gaspiller de l'eau qui est tellement une rareté dans ce contexte. Et pour finir, mention spéciale pour la bande originale, parce que j'ai trop aimé le travail sonore autour de ce film.
En plus, quand on voit l'eau qu'ils boivent, hein, et quand nous, ici, on se dit que l'eau de robinet, elle n'est pas bonne.
Donc... Il y a d'autres réactions dans la salle ?
Oui, moi, je voudrais revenir sur un sujet que vous aviez abordé tout à l'heure, c'est la problématique de la dégradation de la qualité aussi de l'eau. Après, il y a différents niveaux, bien sûr, de dégradation. On peut avoir une dégradation, je dirais, bon, une eau, on a vu tout à l'heure une eau saumâtre, une eau sale qui a l'air sale, mais une eau comme celle-là, on l'a fait décanter, peut-être que on l'a fait bouillir, elle est propre à la consommation. Nous aussi, dans nos territoires, on marche sur l'eau. On a des nappes phréatiques qui sont gigantesques, hein, qui sont très importantes. Hein, et bon, par contre, on a certainement aussi une proportion à la dégrader. Le suivi dans le temps de la qualité de l'eau démontre bien. Bon, donc, c'est évoqué dans les instances, comme le sage, tout à l'heure Jean-Michel en parlait, hein, c'est qu'on sait très bien, on a des objectifs pour rendre, je dirais, améliorer la qualité de l'eau. On sait très bien que ça va plutôt dans l'autre sens. Hein. Et effectivement, on imagine hein, tous les éléments chimiques de différentes origines. Hein. Donc voilà, sur des énormes surfaces, hein, ici, dans nos territoires, font que l'eau, bien sûr, elle est dégradée. Hein. On trouve des éléments chimiques et donc bon, que nous consommons hein, dans notre eau au robinet. Et on sait très bien que, autant dans une rivière, bon, l'eau coule, elle est ponctuellement dégradée, ça part ensuite bien plus loin, dans les clats, dans les nappes. Cette mauvaise qualité, elle reste. Et donc, ça reste longtemps dégradé. Et ça, c'est quand même une problématique. Et on ne sait pas comment faire. Hein, parce que finalement, c'est un constat d'échec. On ne sait pas comment réellement améliorer. Et si l'amélioration arrive, mais il faut attendre très longtemps. Hein. Donc, c'est quand même un gros souci. Et je pense que ce souci-là, on l'a dans le monde entier. Et tout ça se répercute sur la mer, etc. etc. Donc, on a globalement, elle est une dégradation continue de l'eau, que que ce soit de l'eau douce ou de l'eau dans la mer également.
Une autre réaction ?
Pour revenir sur le film, j'ai, en préparant cette soirée, on lisait cet après-midi un article de la réalisatrice en fait, qui était interviewée, où lui était un petit peu fait par le reproche, mais on l'interrogeait sur est-ce qu'elle n'avait pas eu un peu la tentation d'esthétiser un peu. Voilà, c'est vrai que les images sont très belles et que en même temps le sujet est très grave. Et pourtant, enfin voilà, on peut trouver ça très beau. En fait, ce qu'elle expliquait, c'est que elle a la famille de son papa qui est nigériane et que du coup, elle avait envie de travailler sur le Niger. Et pour parler un peu de comment elle a mis en place le film, en fait, elle a travaillé avec l'ONG et elle a trouvé ce village parce que c'était un village dans lequel il y allait avoir l'installation d'un forage. Donc, à partir du travail avec cette ONG, alors je ne me rappelle pas, elle est citée dans le...
Il s'appelle Aman Iman, ce qui veut dire « l'eau, c'est la vie ».
Voilà. Donc, à partir du travail avec cette ONG, elle a pu, en fait, du coup, s'immerger dans le village, faire connaissance avec cette famille qui sont les personnages principaux du film. Et sa volonté, c'était vraiment de dire « je veux faire un film à la hauteur des regards des enfants », que ce soit des jeunes adultes, comme on va dire le personnage principal, ou les plus petits. Et son idée, c'était ça, c'était aussi de regarder cette situation depuis cette jeunesse, quoi.
Ce qui est intéressant, c'est que dans le mot enfant, qui vient de « infants », c'est ceux qui ne possèdent pas la voix. Il y a tout un travail sur le dit, le non-dit, et la question de l'eau aussi, que c'est la voix même qui s'écoule aussi, avec cette eau qui tend à arriver. Donc il y a quelque chose de très fort dans cette fille qui ne peut pas dire à sa mère qu'elle lui manque, qu'elle ne peut pas dire à son père non plus. Enfin, on était vraiment dans ce point sensible, en fait. Mais je te rejoins là-dessus, de cette esthétique dangereuse, des fois, du documentaire ou du drame, où on a été un peu écarté, et en même temps c'est tellement compliqué parce qu'on a dans nos imaginaires stéréotypés, en fait, tout simplement, ce côté de tiens, l'enfant qui attend l'eau, l'enfant qui est dans l'eau, puis ça s'est senti dans les rires, donc c'est très dangereux, et j'entends que ça a dû être une question assez sensible pour la réalisatrice de se dire comment ne pas tomber dedans et comment en plus ne pas faire comme si ça n'existait pas, en fait.
Je voulais juste réagir sur ce qui a été dit tout à l'heure à propos de la qualité de l'eau, parce que, alors, certes, on ne peut pas se réjouir de la situation actuelle, mais je pense que, en fait, les situations sont très contrastées d'un bassin versant à un autre ou d'un aquifère à un autre, enfin d'une masse d'eau souterraine à une autre. Il faut se rappeler quand même qu'en 1964, hein, quand il y a eu la première grande loi sur l'eau qui a été adoptée, il y avait des poissons morts dans la Seine. Et que d'ailleurs, c'était grâce au lobby des pêcheurs que cette loi sur l'eau a fini par être adoptée, qui était dénommée d'ailleurs loi pour la reconquête de la qualité de l'eau, avec des mécanismes qui sont insuffisants. Le niveau des redevances qui sont prélevées par les agences de l'eau est insuffisant pour avoir vraiment un caractère incitatif pour empêcher les pollueurs de polluer totalement. Il y a eu une autre grande avancée qui est la directive cadre européenne sur l'eau qui a été adoptée en 2000, qui normalement impose pour l'ensemble des pays de l'Union européenne d'atteindre un bon état qualitatif et quantitatif de l'ensemble des masses d'eau, donc à l'échelle de l'Union européenne. Et la France ne figure pas parmi les bons élèves, puisque effectivement on paye même, je crois, des astreintes pour non-respect de certaines directives européennes sur le volet de la qualité. Mais pour autant, quand on regarde les carnets de bord, de suivi de cet état qualitatif et quantitatif des différentes masses d'eau, on a des points ou des zones qui étaient dans le orange et qui passent au vert. Et puis, on a aussi des situations de dégradation. Donc, on ne peut pas, jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est vraiment, on est dans la thématique de l'eau. Mais je pense qu'il faut regarder les choses de manière contrastée en fonction des bassins. Peut-être que dans le bassin sur la Scarpe, il en va différemment de d'autres endroits, mais il faut quand même aussi reconnaître les acquis de ce que le législateur a permis d'adopter au fil du temps.
On voit l'heure qui tourne, peut-être une dernière réaction dans la salle ou
Je ne sais pas s'il y a des questions pour, disons, aller un peu, enfin, changer un peu. S'il y a des questions sur l'eau à la CUA, à la gestion, je ne sais pas. Bon.
Non, moi, ce n'était pas par rapport à la CUA, c'était juste un propos que j'ai entendu très récemment, peut-être aujourd'hui, de Vanessa Nakate, qui est une militante climat qui est ougandaise, qui disait qu'en fait, elle se battait pour la justice climatique. Voilà, c'était un petit clin d'œil aussi au mouvement climat et au collectif Arajoie pour le climat, puisque parfois on se pose la question de... voilà, on est contre bien des choses, mais on est aussi pour certaines choses. Donc on est probablement pour la justice climatique. Et voilà, je voulais parler de justice climatique, puisque c'est aussi évoqué par le maître dans le film, qui explique que c'est à cause de la pollution des pays riches, ce qui est d'un point de vue physique tout à fait exact.
Dans la continuité de ce que vous venez de dire, je voudrais saluer et remercier en fait Olivier et Shruti pour et toutes les personnes qui ont contribué à ce cycle, parce que je ne pense pas qu'on l'ait prémédité, mais je trouve que par les deux films que nous avons programmés cette année, la question des inégalités à l'échelle mondiale était très justement posée, et aussi la question des inégalités entre les hommes et les femmes. Et c'était déjà le cas dans le film précédent, puisque c'était peut-être le film que vous avez vu, Made in Bangladesh, sur la production de vêtements dans des usines essentiellement avec des femmes qui travaillaient. Et donc, enfin voilà, je suis très contente en fait qu'un cycle sur la question du climat ait été, en tous les cas, sur ces deux premiers films, teinté de ces deux questions-là.
Merci beaucoup.